Exode chapitre 17 hein, pour notre méditation d'aujourd'hui. Exode chapitre 17, les versets 8 à 13. Au nom de Jésus. Les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à Rephidim. Moïse dit à Josué: Choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué partit combattre les Amalécites, comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Hur se postaient au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand ils le laissaient retomber, les Amalécites l'emportaient. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hur prirent une pierre et la placèrent près de Moïse. Moïse s'y assit. Aaron et Hur, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras, qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta une victoire complète sur l'armée Amalécite. Amen. Quand on parle de Moïse, ce qui vient tout de suite dans la plupart des têtes des lecteurs de la Bible, c'est cette image d'un personnage extraordinairement puissant, charismatique, avec des pouvoirs surnaturels. D'ailleurs, comme ici dans ce texte, il lui suffisait de lever le bâton de sa main et Josué et toute son armée arrivaient à prendre le dessus sur les Amalécites. C'est toujours ce Moïse, celui qui a fait plier Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Celui qui parlait à Dieu face à face, c'est ce Moïse-là. Celui qui a fait tomber sur l'Égypte les 10 plaies d'Égypte, ce Moïse, le grand Moïse. Et donc, en lisant toute l'histoire de Moïse, nous avons tous une image d'un Moïse inébranlable, d'un Moïse infaillible, voire même intouchable. Or, dans ce texte, il nous est présenté que finalement, Moïse n'était pas si fort que l'on croyait. Nous allons relever deux éléments dans le texte qui pourront nous aider à nous orienter vers cette réflexion. Deux mots, peut-être insignifiants pour le lecteur de tous les jours, mais qui, je pense, là se trouve toute la réflexion sur ce texte, les Amalécites et Rephidim. Le premier, les Amalécites, c'est un nom d'un peuple, et le deuxième, le nom d'un lieu, Rephidim. Ce sont deux marqueurs utilisés par l'auteur, dont les éléments sont cruciaux dans notre compréhension du texte de ce matin. Qui sont les Amalécites? Les Amalécites, pour faire court, ce sont les descendants d'Ésaü. Rappelez-vous, Ésaü, c'était le frère de Jacob. La Bible les cite plusieurs fois dans l'installation d'Israël. Ils se sont toujours prononcés comme étant les opposants farouches d'Israël, et c'est normal. Ils étaient contre l'installation d'Israël dans la terre promise. Donc ils venaient à chaque fois perturber Israël. C'était leur ennemi favori, on va dire. Cette population était tout le temps opposée à Israël, même jusqu'au temps de Saül, au temps de David. Et alors, de génération en génération, ils étaient l'ennemi attitré d'Israël et ne le laissait pas tranquille. Il revenait à chaque fois à la charge quand l'occasion se présentait. On peut dire qu'il usait Israël, y compris Moïse. Et dans le texte, il est mentionné que le combat durait combien de temps ici? Si vous avez suivi la lecture, pendant toute la nuit entière, jusqu'au lever du soleil. On peut imaginer que le combat était acharné. Et on voit bien ici la notion du temps, de durée, car Moïse lui-même était exténué. À un certain moment, il n'en pouvait plus. Il avait besoin d'aide d'Aaron de l'autre côté, de Hur de l'autre côté, qui devait tenir ses deux bras des deux côtés, car à chaque fois qu'il baissait les bras, dit le texte, Israël était vaincu. Et à chaque fois qu'il pouvait relever les bras, Israël prenait le dessus. Alors, une question qui m'intrigue face à cette situation est la suivante. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, pourquoi Dieu laisse perdurer les choses? S'il est le Dieu Tout-Puissant, il aurait pu exterminer les Amalécites d'un seul coup. Pourquoi attendre toute une nuit jusqu'au lever du soleil? Est-ce qu'il ne pourrait pas, d'un seul revers de la main, faire périr cette population? Et pourquoi il a fallu attendre toute la nuit pour que Josué et sa troupe puissent gagner la bataille et non la guerre? Puisque, comme je viens de le dire, il revenait à chaque fois cette population pour attaquer Israël. Or, on nous a toujours dit que Dieu ne fait pas les choses à moitié, non? Et comment se fait-il qu'il laisse traîner cette affaire? Pourquoi ne pas régler une bonne fois pour toutes? Donc toutes ces questions se bousculent, en tout cas dans ma tête, quand j'ai préparé cette méditation. Cela pourrait nous faire penser à Paul, rappelez-vous, lui qui aussi avait traîné un problème dans son corps, qu'on ne sait pas vraiment si c'était un problème de santé ou autre, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, il avait lutté avec Dieu que cette chose-là puisse être extraite de son corps. Il a beaucoup lutté pour que le Seigneur puisse intervenir en sa faveur. À trois fois, disait-il, trois reprises. Mais le résultat semblait être négatif à nos yeux parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Mais en réalité, il a reçu l'explication dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne sais pas pour vous, mais en écoutant cette parole de Paul, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'est pas en train de s'auto-consoler le gars? Bon, voilà, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ou comme pensent la plupart des gens, peut-être qu'il fait une explication philosophique, il essaie de philosopher sur le problème, sur son échec, pour mieux digérer, pour mieux avaler. Eh bien non. Justement, le deuxième élément que je vais relever avec vous, ici, nous donne une réponse à cette énigme. Le texte parle aussi du lieu Réphidim. Rappelez-vous ce lieu Réphidim, le lieu fatidique pour Moïse. Car dans les versets précédents, même si on ne l'a pas lu, c'est dans cette région-là que se situaient Massa et Meriba, à Réphidim. Qui signifie querelle et murmure. Dans cette histoire, Moïse ne sortit pas indemne parce que dans le livre des Nombres, une autre version que celle qui est écrite dans le livre d'Exode que nous avons ici, dans la version du livre des Nombres, il est dit que Moïse était si fâché contre le peuple d'Israël. Alors, il a modifié les consignes que Dieu lui avait données. Il a pris son bâton à Mériba, il a frappé à deux reprises le rocher où Dieu se dressait en disant, écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Nombre chapitre 20, verset 10. Voilà ce que Moïse avait dit. Or, dans la version de l'Exode, Yahvé n'a pas dit de faire tout ça, juste de frapper le rocher. Frappe deux fois le rocher. Et je vais faire sortir de l'eau. Mais lui, il a rajouté, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Et il explique, il est un peu plus loin, Dieu l'a sanctionné à cause de cette phrase, tu n'entreras pas dans la terre promise. Si nous comparons ces deux versions du miracle de l'eau de Meriba et de Massa, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je pense que la nuance est assez flagrante et claire ici. Dans le livre des Nombres, l'auteur montre qu'à un certain moment, Moïse se prenait pour Dieu. Mais oui, il inclut sa personne avec celle de Dieu qui procure l'eau aux enfants d'Israël en utilisant le « nous ». Nous allons vous donner de l'eau. Moi, Moïse. C'est plus l'Éternel. Serons-nous capables de faire jaillir de l'eau pour vous? Et au verset 12 du chapitre 20 du livre des Nombres, Dieu en personne donne la raison de son interdiction de ne pas pouvoir mener le peuple d'Israël dans la terre promise. Et regardez bien le parallélisme avec notre texte. C'était Josué qui a été désigné par l'Éternel sur le même lieu de faire entrer son peuple à Canaan. Regardez bien le parallélisme entre cette histoire de l'eau de Meriba, de Massa à Réphidim, où Dieu a donné de l'eau sur le rocher avec le bâton. Et par la suite, Dieu aussi prononce à Moïse qu'il ne pourra pas entrer dans la terre promise. Et c'est sur ce lieu-là que Moïse se tenait debout avec le bâton pour battre les Amalécites. Il n'y a pas de hasard dans le choix de lieu. Et ici, dans notre texte, Moïse a besoin d'Aaron. Il a besoin de Hur pour pouvoir se maintenir debout, toujours au même endroit, afin que Josué et son armée puissent remporter la victoire. Là où Moïse a échoué, c'est là que Dieu l'a relevé. Et voilà comment Dieu relève son serviteur. Là où tu échoues, Dieu t'emmènera là pour te relever, comme il l'a fait avec Moïse. Tout cela est annonciateur, sous la couleur de tout ce qui va se passer. Ce n'est pas Moïse qui sauve le peuple, même s'il a été appelé, même s'il a été envoyé pour libérer le peuple. En tant qu'être humain, Moïse a craqué et se voyait en Dieu qui donne l'eau, c'est-à-dire la vie. Nous avons alors une possibilité de réponse sur le pourquoi que nous avons posé au tout début de cette méditation. Je vous rappelle la question, pourquoi Dieu laisse perdurer les choses? Est-ce qu'il ne pourrait pas d'un seul revers de la main faire périr cette population? Et pourquoi il a fallu attendre toute la nuit pour que Josué et sa troupe puissent gagner la bataille et non la guerre? Voilà la réponse. Et nous revenons toujours au tout début de l'histoire de l'humanité. C'est quoi ce problème récurrent qui revient à chaque fois? Nous sommes toujours tentés à nous considérer pour des dieux. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le péché originel. Le péché originel, c'est le fait de se croire, de se prendre pour Dieu. Je sais tout faire. Je connais tout. Je maîtrise tout. Et surtout, je souhaite régler les problèmes dans un laps de temps le plus court possible, c'est-à-dire maintenant. Je veux être Dieu. Je ne veux pas que quelqu'un gère ma vie à ma place. Et ce péché original, ce péché original crie en nous tous les jours, à chaque fois que nous faisons quelque chose dans notre vie professionnelle, vie familiale, peu importe, il est toujours là. Être conscient de sa limite, chers frères et sœurs, être conscient de sa petitesse n'est pas une si mauvaise chose. Accepter la défaillance est la source de notre salut. Au contraire, cela nous permet d'entrer, de goûter la grandeur de Dieu. Rappelez-vous de la confession de foi juive, le schéma Israël, écoute ô Israël. Ce schéma Israël prend tout son sens car il nous exhorte à aimer Dieu de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force. Et aimer n'est autre qu'un aveu de dépendance. Un aveu de dépendance totale à Dieu. Aimer signifie que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Que nous avons besoin de lui. Et sans lui, nous sommes incomplets. Aimer Dieu, c'est avouer son insuffisance. Tant que nous serons autosuffisants, nous n'aurons pas besoin de Dieu. Mais au moment où nous sentons faibles, au moment où nous nous disons « c'est fini, j'ai plus rien », c'est là que tu pourras recevoir la grâce de Dieu. Parce que tu sauras que rien ne vient de toi. C'est Dieu qui te relève. Et ce Dieu d'amour souhaite que nous soyons toujours dépendants de lui. Voilà notre Dieu. Il veut que nous soyons dépendants de lui afin qu'il puisse s'occuper de nous. Et je vais terminer ma méditation sur cette phrase. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui te façonne. Veut-on m'interroger sur ce qui est à venir? Me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains? Est-ce que tu me poses la question, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Ce n'est pas toi de te chercher la réponse, c'est à moi. Accepte ce que Dieu te donne aujourd'hui et chaque jour suffit à sa peine.